Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment revenir au travail après la naissance d'un bébé? Des millions de femmes sont concernées dans le monde. Dans les pays développés, des lois protègent les salariés, en tout cas sur le papier, mais dans la réalité, eh bien les discussions entre femmes, le sujet est toujours là. Alors comment reprendre son poste? Comment reprendre sa confiance en soi après un congé maternité? Faire face à des remarques, parfois désobligeantes, ou à une indifférence totale aussi? Comment les femmes font face pour travailler autrement? Que demandent-elles, qu'attendent-elles de leur entreprise, de leur patron, de leur patronne? Et comment évoluent les mentalités? Les voisines, appelez-nous pour nous dire comment vous vous sentez perçue au travail depuis que vous avez un enfant, comment vous vous organisez. Vos témoignages sont précieux pour les autres. Alors appelez-nous, s'il vous plaît, dès maintenant, au 33 1 84 22 71 71. Je rappelle que dans certains pays, les femmes ont trois journées. La journée de travail, la journée avec les enfants, la vie sociale, troisième journée, les mariages, les funérailles, les autres cérémonies de la communauté. Alors on imagine à quel point le retour au travail est d'autant plus compliqué dans ce contexte de triple journée. On va discuter avec nos invités. L'émission a même commencé pendant le journal, hein, pour vous dire la vérité, les voisins et les voisines. Le débat va déjà bon train avec vous, Garance Hiverneau. Vous dirigez et vous avez fondé le cabinet 5A Conseil. Bonjour.
Bonjour.
C'est une entreprise, une start-up de reconversion de mieux-être professionnel et qui travaille beaucoup sur, à travers notamment les bilans de compétences, sur les problématiques du retour au travail après une naissance. Nathalie Prussia-Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychologue tout court, mais les questions du travail sont sans cesse évoquées par les personnes que vous aidez, des hommes ou des femmes d'ailleurs.
Les deux.
Ou des couples.
Les deux et des couples aussi.
Aurélia Dupasquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes baby planner. On connaît les wedding planners, ce sont ceux qui organisent les réceptions de mariage. Alors les baby planners, moi je ne connaissais pas. Vous êtes consultante en gestion de la parentalité et donc co-dirigeante de l'agence Before Baby. Donc on peut gagner sa vie en aidant les mamans au travail.
Voilà.
C'est ça.
Exactement.
Et exactement. Vous travaillez pour les entreprises où davantage ce sont les mamans qui viennent vous solliciter vos services?
Ça commence à être un peu les entreprises. À la base du métier, c'est les mamans, enfin les parents plus exactement, parce qu'on a beaucoup de papas aussi et de couples. Et de famille.
Oui, c'est pas seulement à la maman de s'organiser, c'est aux parents en général.
Absolument, exactement. La naissance d'un enfant, ça concerne tout le monde dans la famille. Et maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en effet intéressées par ces questions-là.
Alors,
c'est tant mieux.
Comment revenir au travail après la naissance d'un bébé? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis tout de suite la réaction d'un voisin, je précise bien un voisin, Hyacinthe qui était à Beaumé, qui a la vie au Bénin et qui nous dit reprendre le travail 3 mois après un congé maternité n'est pas chose aisée. La femme, lors de son retour au travail, doit beaucoup s'entretenir pour être bien vue par ses collègues. Alors moi je comprends qu'il faut avoir l'air en forme, bref, être encore plus impeccable dans sa présentation. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Une autre forme de pression aussi, un peu indicible, Garance Hiverneau?
Bah écoutez, déjà, elles ont une double injonction qui est d'avoir un enfant, de réussir cette nouvelle vie familiale et de réussir sa carrière. Donc, en plus, si on rajoute cette injonction de, en effet, être parfaitement physiquement, ça fait beaucoup. En tout cas, elles ont un poids qui est manifestement lourd à porter. Mais voilà, c'est un ensemble de choses. Hein. On est bien dans sa tête si on est bien physiquement. Donc, en effet, il faut envisager les choses de manière globale.
Alors, tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune maman de 33 ans, avocate au barreau de Paris. Elle a souhaité témoigner anonymement. Ça dit beaucoup de choses aussi de ce sujet. Tout commence il y a 3 ans lorsqu'elle annonce dans son cabinet qu'elle est enceinte. Elle s'est confiée à Alice Milo.
Je suis avocate. Ça fait 1 an que je travaille dans mon cabinet. J'avais des gros horaires, 9h le matin, voire d'ailleurs un peu avant, jusqu'à 20h, 21h au moins le soir.
Donc vous travaillez en moyenne 12 heures par jour?
Oui, voire plus. Et des déplacements à la fois en Ile-de-France et puis dans toute la France.
Est-ce que vous appréhendiez l'annonce de l'arrivée de votre enfant?
Oui, évidemment, mais j'avais fait le choix délibéré d'aller voir mon boss et de lui dire que j'avais une très bonne nouvelle à annoncer. Il me félicite donc pour la naissance, donc sur le coup très bien. Et pendant le congé maternité, donc je vais voir mon boss faire ma petite présentation du bébé. Et puis c'est là que je lui annonce que bah c'est vrai que moi, ça y est, une fois que mon enfant est arrivé, je me suis dit bah non, moi j'ai envie de le voir. Donc je l'ai annoncé en disant bah maintenant je partirai à 6h15 le soir, sauf grosse urgence.
Alors qu'avant vous partiez vers 21h.
Vers 20h, 21h.
Donc ça voulait dire quand même 3 heures de travail en moins par jour.
Oui, exactement. J'ai du coup dit que donc j'arrivais le matin vers 8h. Et puis après, télétravail éventuellement le soir. Ou organisation, parce que je sais qu'il y a des urgences. Donc je lui ai dit, bah, évidemment, s'il y a besoin d'être là, mon mari prendra le relais ou une grand-mère. Enfin voilà, je me débrouillerai, quoi. Vraiment, j'ai assuré dès le départ la souplesse.
Comment y réagit votre patron sur le moment quand vous lui annoncez ça ?
Je dirais que c'est la même chose qu'avec la naissance, c'est-à-dire que sur le coup, très bien. Et puis après, je suis revenue au travail et là, ça a été très différent. Il m'a fait vivre un enfer, vraiment, je le dis. Donc, on avait des réunions, j'en avais un gros dossier avec un client qui a repris très vite quand je suis arrivée. Et on avait des réunions qui, évidemment, étaient plutôt sur un horaire un peu tardif. Et on y allait tous les deux, et donc je me disais, bon bah tant pis, moi il y a un moment où je partirai, puis lui restera puisqu'on est deux. Et de manière assez pernicieuse, juste avant que moi, quelque part, si on calculait un peu le temps, j'allais me lever, il se levait pour une raison inconnue, et il disait, bon bah écoutez, je suis obligée de vous laisser. Alors que donc moi, il savait pertinemment qu'il fallait que je parte. J'ai réussi, tout en animant la réunion, à envoyer un texto à l'assistante maternelle en lui disant « Je vais être extrêmement en retard, je suis navrée ». Et en fait, la deuxième fois, parce que c'était des réunions répétitives, il a refait le coup, il est parti. Et là, je me suis dit « Bon, bah tant pis ». Donc j'ai dit aux clients, parce qu'en plus, moi, je les connais bien, et c'est des gens que j'appréciais, je leur ai dit « Bah écoutez, voilà, moi, j'ai un petit garçon à aller chercher, donc je suis absolument navrée, mais on va devoir finir la réunion ». Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont été très très choqués de l'attitude de mon associé. Et ils m'ont dit, mais évidemment, partez. Enfin, c'est très parlant, quoi. Il a quand même multiplié les déplacements pour moi, c'est-à-dire que quand je suis revenue de congé maternité, j'ai pris la place de l'avocate qui assurait toutes les audiences. Et voilà, et c'était bon, bah maintenant tu vas aller à Toulon, bon bah maintenant tu vas aller à Marseille, bon. Et en plus parfois c'était même pas mes dossiers, donc là aussi, enfin quand c'est vos dossiers, bon, on comprend, mais quand vous allez assurer des audiences à droite à gauche pour l'équipe, alors qu'il y avait une personne qui était junior en dessous de moi et qui pouvait très bien y aller, qui n'a pas d'enfant, il y a un petit problème, quoi.
C'était la punition.
C'était la punition. Dans le cabinet, j'étais la seule maman à avoir imposé ça. Et ça, je le sentais bien, quoi, que j'étais la première à faire ça et que ça passait pas. Et les autres mamans, elles sont toutes revenues de congé maternité, elles ont continué à bosser jusqu'à 8h ou 9h le soir.
Et donc ça veut dire qu'elles voyaient peu leur enfant.
Ah oui, oui. Alors, c'est très intéressant parce que beaucoup d'entre elles, en fait, ont été tellement tristes qu'elles me racontaient qu'elles réveillaient leur enfant quand elles rentraient chez elles. C'est quelque chose d'assez courant chez les avocates qui sont donc très tristes au fond quand même de ne pas voir leur enfant et qui rentrent vers 22h et qui réveillent leur enfant. Et je le dis parce que vraiment je ne l'ai pas entendu qu'une fois.
7 milliards de voisins, reprendre son travail après un bébé, appelez-nous pour réagir. 33 1 84 22 71 71. Je vous vois avec des mines déconfites, mesdames, et en même temps, vous avez l'air de tellement bien connaître ce genre de témoignage. À quelle réalité correspond ce type d'histoire, selon vous, Nathalie Prussia-Collin ?
Et la réalité qui fait que, en fait, on n'aime pas les changements dans beaucoup de structures. Personne n'aime les changements. Ils sont habitués à avoir des personnes qui ont fait des horaires sans compter jusqu'à présent. Et puis l'exemple de cette jeune femme est typique. Et en plus, il y a une question d'ego puisque elle dit bien que dans son cabinet, il y a d'autres mamans qui sont revenues et qui elles ont continué à faire leurs horaires. Quand elle parle de réveiller l'enfant en rentrant, c'est assez terrible, mais ce qui prouve une grande souffrance, parce qu'elle ne le ferait pas. Elle sait très bien qu'en dormant son enfant, il ne faut pas le réveiller, et pourtant elle va le faire. Donc ça manifeste une grande souffrance, et on a ça de façon récurrente.
Donc, Garance Hiverneau ?
Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce témoignage, c'est que finalement, l'avocate dit bien que les clients à qui elle annonce qu'elle va devoir partir pour récupérer son fils comprennent évidemment la situation. Et c'est ça qui montre qu'en effet, on est dans
une partie de la société qui évolue.
Une partie de la société qui évolue, et c'est tant mieux. Et donc, je pense que les hommes hommes comme les femmes comprennent de plus en plus que l'articulation vie professionnelle est extrêmement importante pour tout le monde, le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour représenter la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc les clients le comprennent et je pense que ça serait très mal perçu si en effet on a un employeur qui a des mesures contre-productives pour permettre une meilleure parentalité.
C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est sur des différentes classes. Le client va le comprendre, parce que lui, il a bien compris, parce qu'il connaît très bien l'avocate qui le défend, elle va faire son travail, ça va rien changer. Et en fait, le problème est la place du collaborateur, du supérieur, en fait. C'est celui qui a le cabinet. Et c'est des problèmes de place aussi, des problèmes d'ego, c'est pour ça que j'en parlais, c'est vraiment des problèmes de place. Le client va bien comprendre que il sera défendu de la même manière, qu'il aura le même engagement, que c'est pas ça qui va invalider la qualité professionnelle d'une personne.
Aurélia Dupasquier, on est dans une des discriminations aujourd'hui en France les plus répandues, hein, après la discrimination par le sexe, concernant les femmes et leur retour de congé maternité. 36% des femmes estiment qu'elles n'ont pas retrouvé l'intégralité des fonctions qu'elles occupaient avant de devenir maman. Encore plus chez les cadres, d'ailleurs, hein, 44%. Vous travaillez davantage, d'ailleurs, avec des femmes cadres, hein.
Alors nous, on a un petit peu de tout, mais oui, enfin, très majoritairement, ce sont en effet des cadres. Et c'est vrai que c'est le retour qu'on a, même si, encore une fois, les mentalités évoluent et que, du coup, la parole se libère plus, en tout cas. Là, elle a choisi ce témoignage était anonyme, parce que c'est encore un métier qui est compliqué, le métier d'avocat, et c'est connu pour ça. Les retours de congé maternité des avocates sont connus pour être très compliqués. Mais de plus en plus, la parole se libère un peu plus, aussi parce qu'il y a des managers qui sont des femmes, qui sont des mères, et qui sont aussi passées par là avant, et qui du coup veulent un peu faire bouger les choses. Ça arrive. C'est pas la majorité encore aujourd'hui, mais la parole là-dessus, comme sur beaucoup de choses en ce moment, se libère quand même.
Ce qui est intéressant justement de soulever, c'est que ce sont les cadres aujourd'hui qui sont énormément touchés. Parce que le retour de maternité d'un cadre va poser question et problème pour le manager en disant, mais il manage une équipe. Donc très souvent, d'un seul coup, la personne revient. Au lieu de manager, par exemple, une équipe de 10 personnes, elle va en avoir 3-4. Donc, on va commencer déjà à dire, mais non, mais tu peux plus, tu es fatigué. Donc, même si, ce qu'on disait tout à l'heure, il fallait faire bonne figure, effectivement, et qu'on est dans une double peine, ce que Carence disait, ce qui est très juste, cependant, quand on arrive, d'emblée, on est stigmatisé. Donc, il y a aussi, aujourd'hui, une pression qui est encore plus grande chez les cadres, qui doivent gérer des dossiers, qui ont
Parce que les horaires aussi de journée sont plus flous.
Alors, les horaires, et puis on leur donne, en fait, des prestations où on va avoir, par exemple, un salaire qui va être fixe, mais le plus gros du salaire va être fait sur des primes. Et on sait très bien que si on veut des primes, il n'y a pas d'horaire. On ne compte pas. Et à partir de là, que fait la mère qui doit absolument s'occuper de ses enfants, parce qu'il n'y a pas forcément un seul enfant, il y a aussi la fratrie qui va subir les conséquences. Donc déjà, il y a une culpabilité de la maman avec sa famille en général, l'organisation avec le père, et en plus, une pression au travail qui est de dire « mais comment je vais faire mon chiffre d'affaires ? Comment je vais réussir à le faire ?» alors qu'on a une pression quand on est cadre. Et elles sont particulièrement touchées à cause de cette pression.
C'est encore beaucoup la culture du présentéisme, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, on parlera bien sûr du télétravail où la France est relativement en retard. Vous nous appelez les voisines, on aimerait bien vous entendre. Je sais que vous êtes peu nombreuses souvent à nous téléphoner dans cette émission, par rapport aux voisins en tout cas. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Comment revenir au travail après la naissance d'un bébé ? I found a hidden postcard she'd written to herself with much love from overseas, but signed by somebody else. And I recognize the name is mine, and heavy my heart sank. Her hopes so high and full of love, but all my pages blank. All my pages blank. On my pages, I felt it in the moment. I'd have to let her go as deeply as I believed that she'd freed my bitter soul. But a pull so strong and clear, and a call too true to ignore. And in the end, to follow through, I couldn't be there anymore. Couldn't be there anymore. I couldn't be there anymore. I
there. So what is worse, to let it go or keep it to be sweet, to send it off in peace or to watch it crumble at our feet? Deny it might be over, abandoned in defeat. It's these questions and more that keep me tired even when I sleep. Even when I sleep, they keep me tired even when I sleep. Even when I sleep, they keep me tired even when I.
7 milliards de voisins, reprendre son travail après un bébé et juste après James Hersey, Pages. Nous donnons la parole bien sûr à des auditeurs ou des auditrices au 33 1 84 22 71 71. Chantal est en ligne avec nous d'Abidjan. Bonjour Chantal.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chef d'agence hein, d'une entreprise dans le domaine de la microfinance, Chantal. Et vous souhaitiez nous dire comment vous avez vécu vos derniers retours au travail. Vous avez deux enfants, hein, si je me trompe pas.
Oui, j'en ai trois.
Trois. Alors, comment ça s'est passé tout récemment?
Par rapport à ma dernière grossesse, je suis allée en congé à 7 mois et demi. Et donc, quand je reprenais le service, l'enfant avait à peine un mois et demi. Mmh. Et donc, c'était vraiment difficile.
C'est-à-dire que vous n'avez pas accouché. Votre enfant a accouché plus tôt que prévu, hein, c'est bien cela.
Non, en fait, j'ai eu quelques complications. J'ai eu quelques complications, donc l'enfant n'est pas venu à terme.
D'accord. Voilà. Donc voilà. Vous avez accouché plus tôt que prévu, c'est bien cela?
Oui, c'est ça.
D'accord. D'accord. Et le retour au travail, alors, Chantal?
Le retour au travail était vraiment stressant. Parce que, il fallait laisser l'enfant à quelqu'un, confier l'enfant à une nounou, ce qui n'était pas évident. Parce que les nounous, généralement, ici, n'ont même pas la formation requise, n'ont pas la qualification.
Oui.
Donc, du coup, aller au travail et laisser l'enfant avec une personne inconnue qui n'est pas qualifiée, il y avait tout un stress. Et ajouter à ça la reprise même du travail avec la pression, le stress du travail, c'était vraiment compliqué.
C'est-à-dire que quand vous étiez au travail, dans votre cœur, vous étiez en même temps auprès de votre enfant à vous poser mille et une questions sur ce qui se passait.
Oui, et j'appelais à chaque fois, à chaque 10 minutes, j'appelais pour voir un peu comment ça se passait.
Oui.
Voilà, donc vraiment, c'était vraiment stressant pour moi. Et ce qui faisait que mon rendement au travail, les premiers mois, c'était vraiment compliqué. On me reprenait souvent aussi un certain nombre de dossiers. Mm-hmm. Et bon, ça n'a pas été vraiment facile jusqu'à ce que je m'habitue. Et que chez nous ici, on a une heure d'allaitement.
Oui.
Normalement, quand vous accouchez, que vous reprenez du service, vous avez une heure. Soit vous le prenez le matin.
Oui.
Ou bien vous prenez ça l'après-midi.
C'est-à-dire donc pour tirer votre lait?
Oui, moi je tirais le lait.
Oui.
Je tirais le lait, mais c'est bien évident que ça ne suffisait pas toute la journée. Je passais toute la journée au travail.
Oui.
Voilà. Donc,
dans votre travail, c'était prévu sur votre temps de travail, le temps d'allaitement. Il y avait quelque chose qui était prévu pour votre employeur?
Oui, c'était une heure.
D'accord.
Une heure, soit vous le prenez le matin ou vous le prenez le soir. D'accord. À la descente.
En France, hein, il y a aussi
c'est la même chose, mais c'est deux fois une demi-heure très souvent en France.
Oui, j'avais même lu 90 minutes, il me semblait. Mais
en tout cas, on le met en deux temps, on met en temps de pause. Mais c'est une heure aussi, effectivement, avec une pénalité si l'employeur ne met pas à disposition une pièce, en tout cas c'est ce qui est dit dans les textes, favoriser.
C'est mal connu par l'employeur, hein, ceci dit,
ce
droit-là
c'est
en très France, méconnu, hein, le droit à tirer son lait sur son lieu de travail.
Mais même la RH, la RH ne le savent pas
non plus. Les ressources humaines. Chantal, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui, je veux dire que c'est pas aussi évident pour toutes les femmes, la reprise du travail. Je pense qu'en son temps, il y avait l'UNICEF qui avait un projet pilote pour les femmes en situation de travail pendant les reprises des congés de maternité. et qui, dans le projet pilote, avait demandé à certaines entreprises d'élaborer, on va dire, des salles dans, au niveau du, de l'entreprise pour que la femme qui allait puisse pouvoir venir avec son enfant et puis à des heures bien indiquées aller allaiter l'enfant.
Merci Chantal en tout cas de nous avoir appelé et puis on vous souhaite une très très bonne journée à Abidjan. Merci pour ce témoignage. On comprend bien à travers le témoignage de Chantal qu'il y a aussi cette inquiétude sur le mode de garde quand on laisse un très jeune enfant et que l'on reprend le travail, non ? Vous êtes d'accord avec ça, Garance Hiverneau ?
Oui, bien sûr, ça fait partie des inquiétudes que les femmes rencontrent quand elles ont un enfant. Donc, il y a évidemment la reprise du travail, l'allaitement, l'organisation du mode de garde, et tout ça fait que c'est une pression qui est extrêmement lourde, que les hommes parfois partagent, mais pas encore assez malheureusement. D'où l'idée, en effet, de considérer le congé maternité, ou en tout cas quand on a un projet d'enfant, de réfléchir en amont à toutes ces questions-là pour être dans une démarche de prévention et faire en sorte que quand l'enfant arrive, qui est un énorme bouleversement à tous les niveaux, physique, psychologique, social, on puisse être prête le mieux possible à faire face à toutes ces contraintes et ces difficultés.
Alors, dans la plupart des pays européens, il y a quand même un code du travail qui protège les femmes, notamment en France, quand les femmes reprennent leur travail après une naissance, pendant les 4 semaines qui suivent la fin du congé maternité, la salariée ne peut pas être licenciée, sauf pour faute grave ou pour motif économique. Il y a aussi le code du travail qui protège, enfin le calcul de l'ancienneté pour le salaire aussi est intégré, le congé maternité est intégré. Enfin, il y a quand même tout un arsenal juridique vu de loin qui est censé protéger les femmes sur un sujet comme celui-ci, non, Aurélia Dupasquier?
Alors oui, il y a cet arsenal-là qui existe, qui est un arsenal bien huilé, mais qui reste théorique. Oui. Après, il y a tout l'aspect psychique, dont Nathalie parlera certainement mieux que moi, mais qui est extrêmement fort, qui vient de la part de l'extérieur, mais de la part de la femme elle-même aussi. On parle beaucoup de ces problématiques de posture, d'autocensure parfois de la femme au travail. Et au moment de la maternité, c'est en plus un moment où on est un peu vulnérable. C'est un moment où on est bourré ou plus du tout d'hormones. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre corps et dans notre tête.
On ne dort pas forcément très bien.
On ne dort pas forcément très bien. Le sommeil, c'est quand même
le bébé se réveille.
Exactement. On reprend le travail en France. C'est 2 mois et demi. Là, on entendait le témoignage de Chantal, c'était même 1 mois ou 1 mois et demi. C'est extrêmement tôt.
Oui, en réalité, il y a beaucoup de salariés qui accolent des vacances, etc.
Exactement,
bien sûr.
Exactement.
Sans parler du congé parental.
Besoin, tout à fait. Mais dans
pris
ces cas-là,
par 4% des pères, le congé parental.
Ouais. Et qui fait redescendre le salaire à 390 euros par mois. Donc, c'est quand même un vrai sacrifice sur le foyer.
Enfin, ouais. Vous parliez de salaire. La salariée qui revient après un congé à maternité doit aussi, en principe, bénéficier des mêmes augmentations de salaire que ses collègues, malgré ses absences de plusieurs mois.
Oui.
Là aussi, en principe,
elle doit pas être pénalisée. Et là, on retrouve la posture d'une femme qui a peut-être un peu plus de mal à demander une augmentation, qui en plus, après un bébé, est dans cette situation un peu vulnérable.
Et encore, c'est tenir compte quand tout se passe bien et que l'enfant est normal.
Exactement.
Imaginons l'enfant en situation de handicap qui oblige la mère à demander un 80% ou 60% de son temps de travail. J'ai le cas d'une jeune femme qui travaille dans une énorme structure et qui s'occupait de tout ce qui était Asie, Japon, Chine.
Donc qui voyageait.
Une profession qui voyageait dans l'univers du design et qui avait vraiment une profession fabuleuse. Elle met au monde un petit garçon qui a des troubles du comportement qui s'aggravent avec le temps. Pas un gros handicap, mais quand même, trouble du comportement qui nécessite une prise en charge assez présente avec tout ce qui est CMP et ainsi de suite. Enfin, voilà. Un père qui a un travail qui est très prenant, qui a beaucoup de mal à pouvoir dégager beaucoup de temps. Donc, pas d'autre choix. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a enlevé l'Asie. Voilà. Et donc, elle n'a plus voyagé. Et elle s'est retrouvée parce qu'elle a demandé son 60%. Donc là, elle repasse à 80% dans quelques mois.
C'est-à-dire travail à temps partiel.
Mais travail à temps partiel avec une difficulté pour elle. Parce que tout compte fait, on lui enlève ce qu'elle aimait, qui était le corps de son métier. Donc, c'est vraiment très compliqué.
C'est ça. On place les femmes dans des choix cornéliens, parfois.
C'est la fameuse double injonction qui est absolument terrible pour les femmes parce qu'elles sont en effet tiraillées entre l'envie de s'investir au niveau de cette vie familiale et puis pour autant de ne pas sacrifier leur carrière. Et cette double injonction est en effet très compliquée pour elles.
Et en plus, elle n'est pas donnée, elle n'est pas donnée par elle-même. L'exemple de cette double injonction, ma patiente pouvait tout à fait voyager et s'organiser avec sa belle-famille ou ses parents. Il y avait des moyens de garde. Non, c'est au niveau de la direction qu'on a décidé, en tout cas de sa cellule, avec ses supérieurs, où on a décidé de dire non, on va t'enlever l'Asie parce que tu comprends.
C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui décide à la place des femmes, voilà, finalement.
C'est la différence entre la décision choisie ou la décision subie. Et il a une décision ressentie comme subie, en tout cas, peut faire beaucoup de dégâts.
Exactement.
Mais les femmes ont un rôle à jouer aussi, je pense. Hein. Évidemment, les entreprises sont parfois, ne mettent pas en place les conditions nécessaires pour qu'elles puissent se réaliser à la fois dans leur carrière et dans leur vie familiale. Mais les femmes doivent aussi, en effet, réagir, anticiper pour pouvoir faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas.
Vous trouvez que leur manque de confiance en elles, finalement, à cette période-là, fait que cela aggrave leur situation d'une certaine manière, en plus des idées reçues qui imprègnent la société ?
Exactement. En fait, souvent, elles n'anticipent pas, encore une fois, le grand chamboulement de la maternité et de l'arrivée de ce premier ou deuxième enfant. Donc, c'est vraiment en anticipant les choses qu'elles vont pouvoir, en effet, dépasser leur mécanisme d'autocensure, qu'elles vont pouvoir anticiper la réorganisation de leur temps et montrer à leur employeur qu'elles ont réfléchi à ces questions-là et qu'elles vont faire en sorte d'assumer leurs fonctions et du coup, de ne pas être pénalisées.
On va bien sûr y revenir sur l'anticipation, peut-être faire une liste des cas de figure, etc.
On parle beaucoup de l'annonce de la grossesse au travail. La posture de la femme au moment où elle va l'annoncer va beaucoup déterminer en fait la suite. Évidemment, les managers ne sont pas toujours réceptifs et voilà. Mais il y a quand même une idée de posture à la base aussi.
Néanmoins, on entendait le témoignage de cette jeune avocate qui est arrivée en disant j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Ça s'est pas passé si bien que ça.
En entendant ça, je me suis dit c'est super. Elle est arrivée avec la bonne posture. Et bon,
c'est ce que vous conseillez d'annoncer ça vraiment de manière extrêmement positive. Il faut
se
réjouir d'un nouvel enfant pour la France.
Il faut l'annoncer comme un superbe événement.
Enfin, c'est pas seulement annoncer une bonne nouvelle, c'est aussi en effet réfléchir à comment vous allez pouvoir me remplacer, comment le retour de congé mat va se dérouler. En tout cas, c'est de participer à la réflexion de l'employeur.
La difficulté, c'est que ça implique une communication qui n'est pas toujours lieu.
Nous retournons au standard, si vous le voulez bien. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Paris, je crois bien, cette fois-ci. Bonjour Aminata.
Bonjour.
Vous êtes bien à Paris ou région parisienne ?
Oui, c'est ça, je suis à Paris.
Vous êtes infirmière de profession ?
C'est ça.
Comment ça s'est passé, la deuxième grossesse et le retour au travail ?
Alors, l'annonce de ma grossesse s'est plutôt bien passée malgré mes appréhensions, parce qu'en fait, j'étais dans une phase où je visais un petit peu une évolution professionnelle, donc j'avais un peu peur que ça casse cette ambition que j'avais. Mais finalement, comme c'était assez structuré de mon côté, ça a été bien reçu par ma direction. Mais c'est vrai que quand j'ai repris, j'étais à temps partiel parce que j'avais déjà un enfant. J'avais fait le choix de reprendre à temps partiel et c'est vrai qu'on se sent moins impliqué dans l'équipe du fait d'être à temps partiel et aussi d'avoir été absente pendant quelques mois.
On vous le faisait sentir ou pas ? Ou c'était simplement parce que vous étiez moins présente physiquement ?
Oui, on me le faisait sentir un petit peu, par exemple, comme je loupais certaines réunions importantes parce que c'était les jours où je travaillais pas, ou alors parce que des fois je pouvais pas être là parce que enfant malade ou une impression que peut-être j'étais un peu moins disponible,
moins impliquée
par rapport à avant.
Ouais. Voilà, et en réalité, vous sentiez tout aussi impliquée dans votre métier, vous aimiez toujours autant votre métier?
Oui, exactement. J'aimais toujours autant mon métier. C'est juste qu'en termes de volume horaire, je travaillais moins. Mais quand j'étais là, j'étais impliquée à 100%. Quoi.
Quel conseil ? Vous avez donc eu deux retours de congé maternité, si c'est bien.
C'est ça.
Voilà. Quel conseil, quel message vous aimeriez faire passer pour d'autres femmes qui nous écoutent ?
Moi, je pense que la maternité, c'est quelque chose qu'il faut que les femmes... assume. Parce que j'ai l'impression que... Enfin, moi, je me souviens, à ma deuxième grossesse, ma collègue était enceinte à quelques mois d'intervalle avec moi. et on culpabilisait d'être enceinte en même temps, en fait.
Ah bon ? Ah oui. Alors parce que vous aviez peur de désorganiser le service.
Bah oui, parce que deux infirmières sur cinq enceintes en même temps, bah ça fait deux nouvelles infirmières qu'il faut former.
Ouais. À cela, vous auriez pu répondre que grâce à vos enfants, ça allait financer les retraites de la France, hein, aussi.
C'est vrai, on n'y a pas pensé sur le coup. Oui. Donc oui, je pense que c'est quelque chose que les femmes doivent assumer, mais aussi assumer la structuration de ce projet, parce que finalement, c'est un projet personnel qui s'inscrit dans un projet professionnel et dans un projet de vie.
Mais en termes d'organisation, ça c'est pour l'aspect psychique, hein, où vous-même vous semblez dire que finalement vous avez douté, qu'il y avait ce sentiment de culpabilité, qu'il faut sortir de cela, de la peur de désorganiser un service qui, oui, forcément un peu, mais un service désorganisé, ça se réorganise. Néanmoins, vous, dans votre vie personnelle, quel conseil vous pourriez donner avec votre expérience comment mieux gérer cela sur le plan pratique ?
Moi, je pense qu'il faut être très au clair avec soi-même pour affronter un petit peu les réflexions, entre guillemets, qu'on peut subir de l'entourage ou de personnes qui nous connaissent moins, peut-être. Et aussi s'appuyer sur les personnes qui nous soutiennent, finalement, dans notre projet.
Aminata, bonjour, c'est Nathalie, psychologue. Je me permets de vous poser une question. Vous travaillez en collaboration dans un cabinet privé ou vous êtes dans une structure avec une hiérarchie ?
Je travaille dans un centre municipal de santé, donc oui, c'est une structure qui a une hiérarchie.
D'accord, ok. Et pourtant, ce que vous exprimez, c'est essentiellement par rapport à vos collaboratrices ou vos collaborateurs. Comment réagit la hiérarchie par rapport à ce que vous avez ressenti, ce que vous exprimez ?
Non, justement, mes collaborateurs aussi, mais surtout ma hiérarchie. Quand je parlais des réunions, c'était surtout par rapport à ma hiérarchie.
Ouais. Ouais. Qui vous faisait sentir votre absence. Il faut bien préciser quand même qu'en France, vous occupez un métier qu'on appelle en tension. On manque d'infirmières, donc normalement, les employeurs n'ont pas tellement intérêt à faire la tête quand les infirmières ont le malheur de faire des enfants, parce que on s'estime heureux si vous revenez à votre poste. Et en principe, votre vie devrait être moins compliquée que dans d'autres secteurs, non, Aminata ?
À l'hôpital peut-être, parce qu'il y a un turnover qui est un petit peu important, donc les infirmières qui partent et qui reviennent, c'est assez habituel. Moi, je travaille dans un centre de santé où on est une petite équipe, et c'est vrai que les médecins ont l'habitude de bosser avec les mêmes infirmières, et reformer une infirmière, ça paraît plus compliqué sur une petite équipe. Et il y a aussi des projets qui sont en cours, et le fait que quelqu'un qui faisait partie du projet soit plus là pendant 4 mois,
C'est toute l'organisation du travail et les projets. Ouais. Merci beaucoup de nous appeler, Aminata, de nous avoir appelé. On vous souhaite une très très bonne journée. Garance Hiverneau, sur l'organisation du travail, le travail des managers aussi.
Bah, écoutez, moi j'ai une première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que déjà moi je suis employeur, hein, j'accompagne tous les jours en tant qu'entrepreneuse des femmes en reconversion professionnelle, et en tant qu'employeur, j'estime que si une de mes collaboratrices m'annonce qu'elle est enceinte, on a du temps pour s'organiser.
Alors je précise que vous-même vous attendez un enfant.
Voilà, alors il se trouve que je suis enceinte parallèlement, mais voilà, vraiment c'est pas un problème d'organisation, enfin on annonce souvent la grossesse à 3 mois, donc ça laisse quand même un certain temps à l'employeur pour s'organiser, pour trouver quelqu'un pour remplacer la collaboratrice. Donc pour moi, ça n'est pas un problème d'organisation, en tout cas vis-à-vis de l'employeur. Mais d'où l'intérêt aussi pour les femmes de l'annoncer suffisamment tôt. 3 mois, c'est bien parce qu'elles sécurisent leur grossesse et en même temps, elles laissent le temps à l'employeur et à elles-mêmes aussi d'organiser ce remplacement. Et ça permet de faire en sorte que les choses se déroulent plutôt sereinement.
Aurélia Dupasquier, vous faites des formations notamment auprès des managers pour les aider à gérer ces problématiques et à gérer des femmes enceintes.
Absolument. Et nous, on a monté... Oui, enfin, disons qu'en fait, cette idée, elle germe depuis longtemps, mais que il est temps qu'on comprenne que cette démarche-là, elle est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si, alors on prend l'exemple des femmes enceintes, si une femme enceinte se sent bien dans son entreprise, se sent accompagnée dedans, alors évidemment, les managers ne sont ni psy, ni baby planner, mais en tous les cas, se sent soutenue dans ce projet-là aussi, intégrée aux équipes, etc., elle va du coup mettre beaucoup plus de cœur à son travail, être beaucoup plus productive, Oui. Partir en, enfin voilà, ne pas se mettre en congé pato trop tôt, sauf si elle en a besoin. Enfin, voilà.
Est-ce qu'en fait ce sujet il est trop peu évoqué d'une certaine manière? Il y a une forme
oui,
de
pudeur. Oui, il y a encore une forme
de pudeur
parce que c'est la vie privée, absolument, oui. Et qu'en plus on est dans une société où les nouvelles technologies, etc., ça décloisonne complètement cette vie privée, cette vie professionnelle, les frontières tombe un peu, même si, ça y est, on commence à avoir quelques garde-fous. Cette partie-là est encore vue comme quelque chose de très intime. Alors, ça se voit physiquement parlant, donc on est obligé d'en parler. Mmh. Mais il y a encore une forme, oui, de pudeur, et puis d'appréhension, quoi. On a super peur de comment on va être vu, comment on va être... Mmh.
Vous restez avec nous, on va donner la parole peut-être dans quelques instants à d'autres auditeurs. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et puis vous allez nous dire aussi quelles sont les initiatives qui sont intéressantes aujourd'hui en France et qui font bouger les lignes.
Não é só pôr uma bombeta e falar de bambata. Rap é muita treta, não é disso que se trata. E daí que a corrente não é prata, minha alma é preta e o verso da letra delata que eu sou bamba de bambata, sou do samba de lata, do samba da nata, lá da casa da tia Ciata, do gingado da mulata, da estação primeira, nó na madeira, feito Jamelão e João Nogueira. Dessa maneira, como cantou Candeia, porque a negritude não tá na cor, tá na veia. Creia que não importa a condição geográfica, tô no Brasil. Mas eu também sou lá da África. Samba no pé, no gogó e me redoco. Rap, axé, forró, a cabeça até dá nó, né? Patativa, glaçaré, vandré, de gró. Faço isso desde o pré e é por isso que eu sou pró. Tipo assim, Nissin, Slim, Max, B.O. Com Tom Jobim, Gutim e o bandolim do Jacó. Sem gorá, sem goró, positividade só. O samba é fó, desde o tempo da minha bisavó. É o lelelê, é o dududu, é o lalaiá. Deixa o samba te pegar, é o tuque tique tuque tuque tique ratatata. Samba rap tá no ar, é o lelelê, é o lulu, é o lalaiá. Deixa o samba te pegar, é o tuque tique tuque tuque tique ratatata. Samba rap tá no ar, e quando eu conheci o samba eu fiquei apaixonado. E no rap, hip hop hipnotizado. E quando eu conheci o samba eu fiquei apaixonado. E no rap, hip hop hipnotizado. É hip hop hipnotizado. É hip hop hipnotizado. É hip hop hipnotizado. É hip hop.
Non, je vais pas me risquer à donner le titre de la chanson, mais on l'aime beaucoup, Fabio Brazza, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Comment reprendre le travail après la naissance d'un bébé? Comment organiser surtout son travail? Comment s'organisent les jeunes mamans? Quelles sont les solutions aussi proposées par les entreprises? Je vous propose de retrouver la jeune maman avocate qu'on a entendue au début de l'émission. Elle va nous expliquer maintenant comment elle a réorganisé son travail. Pas si simple.
Honnêtement, c'est vrai que j'ai réussi à être plus efficace. Dans une journée, il y a quand même beaucoup de moments où on arrête un peu de travailler, où on pense à autre chose, où on prend une petite pause sur Internet, on accepte les cafés, voilà. Et donc, tous ces moments-là, c'est vrai que je les ai petit à petit supprimés. Vraiment, j'étais à me dire travail, 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 allez, on y va, allez, un courrier, allez, un mémo, allez, des conclusions. Et je me disais, allez, ces conclusions, t'essayes de les faire dans tant de temps. Allez, on y va, on y va, on y va. Parce que je sais que je dois partir à 18h15, et donc parce que c'est la course, et je fais tout plus vite. Je déjeune très rapidement et quand même de temps en temps je m'octroie un déjeuner parce que c'est important de voir ses collègues, voilà, mais beaucoup beaucoup moins qu'avant. Et ces temps morts, en fait, il y en a plein, et si chaque personne était honnête avec elle-même, elle repenserait à sa journée, elle se dirait bah oui, en fait, c'est vrai que j'en ai plein des temps morts. Et oui, c'est vrai que cette personne-là, là, cette maman-là, bah en fait, elle en prend jamais des temps morts, et on le voit bien.
Mais donc vous étiez payée pareil, vous faisiez moins d'heures mais vous aviez le même salaire.
Oui, tout à fait. J'ai eu des discussions compliquées aussi avec mes collègues qui m'ont dit « Ouais, mais bon, désolé, mais c'est dégueulasse que nous, on gagne la même chose que toi, alors que toi, tu fais moins d'heures. » On parle que d'heures, mais ça veut dire quoi? Une heure de travail, quand moi, je fais en une heure de travail ce que quelqu'un d'autre fait en deux ou trois heures. Bah ouais, désolé, moi, je suis plus efficace, donc bah j'ai le droit de partir plus tôt. Bah peut-être que si t'étais plus efficace, tu partirais plus tôt aussi. Ça pose toutes ces questions-là. Mais c'est des questions qui sont sensibles. Et chez les femmes elles-mêmes, qui, tant qu'elles sont pas mères, ont du mal à les comprendre. Il y a eu l'été, et à la rentrée, c'est comme si le test était passé, que j'avais tenu le coup, et on m'a quand même beaucoup plus laissée en paix. Et puis, je suis retombée enceinte, et là, la pilule n'est vraiment pas passée. Et à partir du moment où je l'ai annoncé, là, ça a été l'acharnement total au niveau de ma... vraiment de ma quantité de travail, c'est-à-dire tout ce qui était urgent, très urgent, c'était pour moi une mission. Il y a eu une mission de 15 jours pour un client, il fallait faire des déplacements dans le sud, il a fallu faire des nuits blanches. J'ai tenu, j'ai travaillé comme une folle, et puis je voyais bien qu'en fait ça allait vraiment pas bien, et j'ai vu mon médecin, et mon médecin m'a dit non mais écoutez, en fait j'appelle ça du harcèlement, et maintenant c'est fini quoi, donc je vous arrête et vous prenez le temps tranquillement de la fin de cette grossesse. Donc je suis encore enceinte là.
Quelque part c'est votre vie privée tout ça finalement, le fait que vous ayez fait le choix d'avoir deux enfants, est-ce que votre boss, est-ce que c'est son rôle de prendre soin de vous parce que vous avez décidé dans votre vie privée de faire deux enfants?
Une fois de plus, il y avait toujours cette junior hein, qui est là, enfin, on pouvait répartir beaucoup, beaucoup mieux le travail. Il y a plein de solutions. Et d'ailleurs, le télétravail, par exemple, c'est une solution. Si on est dans un esprit bienveillant, il y a plein de choses à mettre en place. Et c'est super important pour les parents.
Alors, dans un pays comme la France, quels sont concrètement les recours juridiques dans une telle situation, qui est une situation qui arrive fréquemment, Garance Hiverneau?
Bah écoutez, il y a beaucoup de recours juridiques parce que vous le disiez, les femmes sont relativement protégées aujourd'hui en France et c'est tant mieux. En revanche, la question c'est jusqu'où on va dans le rapport de force avec son employeur, jusqu'où on va pour défendre ses droits, parce que en effet, un des risques de rentrer dans quelque chose de judiciaire, c'est la placardisation ou en tout cas des conséquences délétères pour la collaboratrice. Donc c'est toujours une question de curseur, jusqu'où on va pour défendre ses droits, parce que en effet, c'est très important que les femmes soient défendues, mais en revanche, il faut aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'employeur et faire en sorte que les choses se passent bien pour les deux parties, en tout cas si le job qu'on fait nous plaît et qu'on souhaite évidemment le conserver.
Est-ce que vous conseillez les unes et les autres au retour du congé maternité que l'employé, la maman, la jeune maman sollicite un entretien avec son supérieur pour vraiment dire voilà comment on va travailler
bien
ensemble,
avant,
etc.
Avant le retour.
Donc avant la naissance alors même. Pendant le congé maternité.
Avant la naissance peut-être, mais en tout cas avant le retour, c'est sûr, pour savoir quelle organisation y a lieu. D'une part, parce qu'on peut présupposer qu'il y aura eu un remplacement, comment ça se passe, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle retrouve les dossiers, est-ce qu'elle retrouve son bureau physique, parce qu'il n'y a pas d'obligation sur ça. Hein. Elle peut même changer de poste, et alors on reste dans une catégorie qui est similaire.
Oui. En fait, les managers ou les DRH ont trois angoisses. La première, c'est en effet, qu'est-ce qui se passe pendant le congé maternité? Qu'est-ce qui se passe au retour de congé mat? Et qu'est-ce qui se passe pour le mode de garde? Donc, il faut désamorcer ces trois points-là, en amont, bien en amont.
Et le mode de garde, en même temps, c'est une question assez privée.
C'est privé, mais alors, c'est pas au manager de poser la question, mais par contre, si la collaboratrice arrive face à son manager en lui disant, voilà, j'ai réfléchi à mon mode de garde qui va être ce mode de garde-là, et j'ai également prévu un mode de garde en cas de maladie, hein, parce que c'est pas seulement le mode de garde.
Alors, il y a des jours maladie qui sont prévus dans le droit du travail, mais voilà.
Mais pas pour toutes les conventions collectives d'une part, et puis en plus, parfois ça dépasse, etc. Donc il faut aussi que la femme et l'homme, bien entendu, le père, puissent anticiper ces sujets-là pour avoir des réponses à apporter à l'employeur. C'est ce qui va rassurer le manager ou le DRH.
Justement, vous parliez de l'homme, du papa depuis le début, on les entend pas beaucoup, on n'évoque pas beaucoup aussi leur importance dans ce sujet-là. Un papa nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Youssouf.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, déjà. Vous êtes courageux de nous appeler. Non, vous souhaitez nous parler de votre concubine qui travaillait dans la restauration. Ça a été compliqué après la naissance du bébé?
Ouais, c'était très compliqué.
Ouais.
J'ai dû démissionner de mon poste pour m'occuper du bébé parce que ses horaires n'étaient pas possibles.
Ouais. On l'entend à côté de vous, il me semble, le bébé, non?
Oui, et je suis en train de nourrir.
Ah, d'accord, vous lui donnez le biberon?
Non, c'est son repas du midi.
D'accord. Vous êtes un super papa, Youssouf. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour la maman de votre bébé, pour votre compagne?
Elle était en congé maternité. Dès la reprise, ses horaires ont augmenté. Elle finissait hyper tard, à minuit. Et moi, j'étais obligé de démissionner de mon poste parce que sinon, il n'y a personne pour s'occuper du bébé. Et elle commençait après super tôt le matin. Elle était tout le temps d'ouverture pendant plusieurs mois.
Du restaurant
minimum. Oui.
Ça avait été fait sciemment, un peu pour la pénaliser de son absence, vous avez l'impression, Youssouf?
Je pense.
Et donc pendant plusieurs mois, votre amie ne voyait plus son bébé, si j'ai bien compris.
Elle le rêvait quand elle rêvait bien. Encore une
qui réveillait son bébé pour le voir, alors.
Oui, parce qu'elle avait elle avait ce manque.
On a entendu ça dans un témoignage tout à l'heure, en début d'émission. Oui, donc c'est, je vous rassure, c'est assez répandu. Oui, on en est encore là en France, donc. Hein. Merci de nous avoir appelé, Youssouf. Et puis, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci, en tout cas. Et
puis, merci à vous aussi.
Bon déjeuner avec votre enfant. C'est un petit garçon ou une fille ?
Merci. Un petit garçon.
Ok, oui. Très bien. Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Ibrahim.
Ok, et ben c'est son premier direct, Ibrahim. Hein. On l'a entendu. Il a quel âge ?
Il a 10 mois maintenant.
Ok, formidable. Très belle journée à vous, Youssouf.
Merci à vous aussi, au revoir.
Ça change et ça change pas en même temps. Hein. On entend des super papas et des employeurs qui ne bougent pas.
Ouais, je crois qu'il y a un mot qui a été utilisé par l'avocate tout à l'heure, qui est un peu galvaudé parce qu'on l'utilise à tort et à travers, mais je crois qu'il est primordial, c'est le mot de bienveillance. Et je pense que si les entreprises et les employeurs et les managers faisaient preuve parfois d'un peu plus de bienveillance et étaient moins méfiants aussi envers leurs salariés, je pense qu'il y a des choses qui se passeraient.
Quand vous dites moins méfiant, c'est-à-dire des managers qui se disent « Ah oh bah ça y est, elle va en profiter pour plus rien faire ».
Non, mais c'est compréhensible,
c'est ça,
cette angoisse, encore une fois, dont parlait Garance tout à l'heure, pour les employeurs. C'est tout à fait compréhensible. Mais si on pouvait ne pas tout de suite se dire que la personne en face va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues ou va essayer de profiter du système, on entend beaucoup ça aussi, hein, des femmes qui disent « Ils ont pensé que j'allais profiter de mon congé maternité, que j'allais profiter du système, que j'allais multiplier les congés, etc. »
Ou être démotivé tout simplement.
Ou être démotivé parce qu'on a quand même la tête forcément un peu ailleurs. Donc voilà, je pense que d'une part comme de l'autre, nous c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, hein, de les accompagner pour rapprocher un peu les salariés parents et les entreprises. Je pense que c'est important.
Aujourd'hui, on est dans un pays, la France, où le taux d'activité des femmes est un des plus élevés d'Europe, mais dans de nombreux pays, le deuxième salaire est devenu en fait primordial pour le niveau de vie de la famille. Est-ce que ça pourrait faire bouger les choses, Garance Hiverneau?
Oui, ça fait bouger les choses, mais il y a deux autres leviers, en effet, qui pourraient faire avancer les choses positivement. C'est, en effet, la place des pères, qui est extrêmement importante. Donc, moi, je milite beaucoup pour que le congé paternité soit plus long, voire obligatoire. Et je sais que la ministre Marlène Schiappa milite beaucoup sur ce sujet-là. Et on espère que ça aille dans ce sens.
11 jours consécutifs.
Hein, voilà. 11 jours consécutifs, alors que c'est vraiment à ce moment-là, très précis, de la maternité, que les écarts se creusent sur la prise en charge de la charge domestique, justement, alors que plus les pères sont investis sur ce moment-là, plus en effet l'écart se réduit. Donc c'est très très important
et
que
si
les
le manager
pères...
a lui-même pris un congé paternité, évidemment, ça peut changer son attitude.
Exactement.
Mais je pense qu'en fait, tout ce qu'on dit interroge énormément les beaucoup de places, en fait, et beaucoup de positions, à la fois la place de la femme encore dans la société, la femme, bien sûr, qui devient mère. Les prérequis sur le père qui, socialement, est-ce qu'il peut rester à la maison, est-ce qu'il ne peut pas. Donc je pense qu'en fait, il y a énormément de choses à changer et qui doivent se faire petit à petit, ça fait beaucoup.
Ça sera l'occasion d'un autre débat, à mon avis. Merci en tout cas à toutes les trois d'être venues. Merci aussi
pour vos
informations. Garance Hiverneau, cabinet 5A Conseil, Nathalie Prussia-Collin, psychologue, Aurélia Dupasquier, Baby Planner. Merci à vous tous aussi, à toute l'équipe. Et demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur le street art. Ces dessins de rue. Les murs de nos villes ont-ils encore un cri à pousser ? Révolte sociale ou poésie collective et spontanée ? À demain, les voisins et les voisines !